Alors, sans plus tarder, j'inviterai les représentants du promoteur à s'identifier et à procéder à leur présentation, à moins que... Quelques mots à dire, d'accord, oui.
Premièrement, on aimerait dire bien clairement que tout le monde, nous voudrions que tout le monde comprenne bien ce que nous allons vous dire aujourd'hui. Nous vous remercions d'être présents. Nous comprenons bien que vous avez tous du travail et nous vous remercions d'avoir consacré du temps pour venir nous écouter. Le président du COMEX a expliqué brièvement la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons ce processus de consultation avant que quoi que ce soit ne puisse être entrepris. La consultation est très importante. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Le COMEX découle de l'entente de la Convention du Nord québécois. Il s'agit d'écouter. Nous allons discuter de questions et de ce qui se passe en ce moment. Quelquefois, il y a des impacts négatifs de projets d'aménagement. Quelquefois, la situation était trop difficile. C'est arrivé dans le passé. Et dans les réunions, je n'ai jamais vu qui que ce soit qui n'avait pas de profond respect de la terre dont nous parlons. Nous parlons de la terre avec tant de respect, bien souvent, dans nos questions. Les maîtres de trapage vont parler. Nous leur demandons de ne pas s'exprimer pour embarrasser ses interlocuteurs, mais nous leur demandons de l'information qui pourrait nous aider. Nous leur demandons de partager avec nous leurs connaissances, leur compréhension. Nous ne sommes pas ici pour faire en sorte que les chasseurs, les trappeurs, les maîtres de trapage se sentent mal à l'aise pour quelque raison que ce soit. Donc, je voulais vous dire clairement que nous sommes ici pour vous aider et non pas pour semer l'embarras chez qui que ce soit. Nous sommes ici dans un contexte de dialogue, de discussion. Nous sommes ici pour discuter de manière positive ensemble pour que tout marche bien pour tout le monde. Il y a quelqu'un dans le fond de la salle qui note le nom des gens qui veulent s'enregistrer pour prendre la parole, pour faire une intervention.
Je voudrais au représentant de Mathéo Blanchet de vous présenter deux personnes qui nous accompagnent. D'abord, avec nous, Kelly Leblanc, qui est une représentante du gouvernement de la Nation Cree, qui est employée du gouvernement de la Nation Cree, qui est spécialiste des questions environnementales, et Stéphane Cossette, qui travaille avec nous au ministère de l'Environnement, qui est un des spécialistes aussi des enjeux environnementaux. Vas-y.
Après cette réunion, nous serons encore là pour recueillir des commentaires, des recommandations. Même après notre départ, vous pouvez envoyer vos commentaires par courriel chez nous. Rien ne sera fermé après cette audience. Le dialogue demeurera, nous pourrons continuer à recevoir vos commentaires.
de présenter votre équipe et vous avez quelque chose comme 20 minutes, une demi-heure pour votre présentation. Mais comme je vous dis, on fait ça de façon conviviale, donc il n'y a pas de cloche qui va sonner après 20 ou 30 minutes.
Hi everybody.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Geneviève Lavrecque, je travaille pour Tembec. Nous sommes plusieurs représentants du secteur forestier ici. Je laisserai les autres personnes se présenter. Geneviève de Tembec. Je m'appelle Amélie Béchard pour ECOM. Rock plus Québec de matériaux Blanchette, Amos. Bonjour tout le monde, Francis Perrault de Forest Products. Annabelle Sima pour Cyril Landrienne. Je m'appelle Alex, je travaille pour EnviroCree, je suis consultant qui a été choisi par le promoteur pour faire l'évaluation d'impact, l'étude d'impact. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. C'est moi qui vais prendre la parole pour cette présentation. Merci à tous et toutes de votre présence. Je vais d'abord récapituler ce qui s'est passé au cours des dernières années. Depuis 2010, je vais vous expliquer le bien fondé de ce projet, le plan d'action. Et ensuite, je vais parler de certaines considérations concernant le caribou forestier. Les promoteurs comptent 5 compagnies forestières, Matériaux Blanchette, Cyril Landrienne, ECOM, Resolute et Tembec. Ils se trouvent dans le nord du Québec et en Abitibi, où ils exercent leurs activités. Ils sont détenteurs d'une garantie d'approvisionnement en bois d'œuvre, c'est-à-dire qu'ils ont certaines allocations d'approvisionnement en bois qui leur sont accordées. Ils représentent ensemble des centaines d'emplois et un chiffre d'affaires de plusieurs millions. Comme vous le savez déjà, ce que le promoteur veut faire, c'est construire une route forestière. Donc, Waswanipi est ici, Matagami est là, voici la route de la baie James et le projet de construction de route est ici. Maintenant, regardons les choses de plus près. Bon, voici la route de la baie James au kilomètre 105. Il existe une route de 21 km qui est déjà construite. La nouvelle route, c'est la H-Ouest et la route I. Et ce secteur se trouve au sud du lac Evans et de la rivière Broadback. Voici l'emplacement du projet par rapport au terrain de trapage qui se trouve dans des terres de catégorie 3 et la route passe par le territoire W7 de Malcolm Gull, WK4 de Larangal, WK4 de Louis Outreeves et il y a un petit tronçon qui se trouve au W6, tandis que le dernier se trouve dans le WC5 de la famille Saganash. Bon, vous avez maintenant une idée générale de qui sont les promoteurs, de ce qu'ils veulent faire. Et maintenant, récapitulons ce qui s'est passé au cours des dernières années. Nous sommes en 2016 et cela fait quelque temps depuis que ce projet s'est amorcé. Donc, on va voir ce qui s'est passé pendant tout ce temps et comment ça s'explique. L'étude d'impact et l'addendum ont été rédigés en 2010, mais deux principaux facteurs ont freiné le développement de ce projet. Premièrement, la délimitation de la réserve du parc national d'Assinica, qui était inconnue à ce moment-là et qui n'a été officialisée qu'en 2011. Donc, le projet ne pouvait pas aller de l'avant sans qu'on connaisse les limites officielles et définitives de ce parc. Et par conséquent, le niveau de connaissance sur le caribou forestier était assez faible. Et ça n'est qu'au cours des dernières années qu'il s'est beaucoup amélioré avec des publications rédigées par des organismes fédéraux et provinciaux. Voici quelques événements intéressants qui se sont produits par la suite. Il y a eu la loi sur le développement forestier viable. C'est le nouveau régime forestier qui est entré en vigueur en 2013. L'été dernier, en 2015, il y a eu une entente pour résoudre le conflit forestier Baril Moses. Je vous en parlerai un peu plus dans le cadre de ma présentation. L'automne dernier, le COMEX a demandé aux promoteurs de répondre à plusieurs questions à la suite de leur évaluation de l'étude d'impact. Le COMEX voulait entre autres avoir une mise à jour de ce projet à la lumière des nouvelles études qui avaient été faites sur le caribou forestier. Donc, le promoteur a demandé à Envirocri de répondre à ces questions, enfin de leur donner le soutien scientifique nécessaire. Et à ce moment-là, nous sommes au début de 2016. Donc, ceci récapitule ce qui s'est passé au cours des 6 dernières années et vous explique pourquoi il a fallu tant de temps pour que le projet se remette sur les rails. Maintenant, examinons le bien fondé de ce projet. Même si le temps a passé, les raisons de ce projet sont toujours les mêmes. Et voici pourquoi nous envisageons cette route et pourquoi elle s'avère nécessaire. Premièrement, ce projet se situe dans des forêts, dans une limite de forêt commerciale. Vous voyez ici la limite de la forêt commerciale. La zone grise, ce sont les unités d'aménagement où la récolte est possible. Le lac Evans est ici et l'unité de gestion 86-65 est ici. Donc ici, nous sommes au cœur de la forêt commerciale. Ce qui veut dire qu'il y a un approvisionnement de bois qui est alloué par le ministère des Forêts. Ce que vous voyez sur cette carte, ce sont les zones de récolte du plan actuel d'aménagement. Ici, en violet, vous voyez les zones de récolte et la ligne hachurée entre deux, c'est la forêt résiduelle. Donc, on parle surtout de coupe en mosaïque. D'une part, la foresterie est possible, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de forêts résiduelles. Maintenant, comme les promoteurs entrevoient une pénurie de bois à la fin du plan d'aménagement actuel en 2018, ce secteur est intéressant parce qu'il y a du bois disponible, mais il n'y a pas du tout de route d'accès, donc il faut construire une route. Et comme vous le voyez, il y a plusieurs chemins divers ici et là, mais il n'y a pas du tout de route dans ce secteur. Donc, il faut absolument en construire une. Maintenant, il y a plusieurs types de routes d'accès forestières. Par exemple, ici, à côté de la personne que vous voyez, ça, c'est une route d'hiver. La première partie est dans cet état que vous voyez, tandis que ensuite c'est la végétation qui pousse. Dans le cas actuel, un chemin d'hiver ne pourrait être envisageable. Ça ne conviendrait pas parce qu'il y a trop de limites. Les activités ne peuvent se faire que lorsque le sol est gelé. Donc, ce serait seulement pendant une partie de l'année qu'on pourrait utiliser la route et cela empêcherait le travail sylvicole tel que la reforestation qui doit se faire en été. Par ailleurs, une route en gravier permet un accès tout au long de l'année. Donc, c'est bon pour les compagnies forestières, mais aussi pour les maîtres de trapage, comme ça a été souligné pendant les consultations que nous avons eues avec eux. Donc, pour toutes ces raisons, il a été établi qu'une route de classe 3 serait la plus appropriée pour ce projet. Il faut bien comprendre que c'est une route de classe inférieure, c'est-à-dire que sa largeur est de 7,5 mètres et elle est conçue pour une vitesse de 50 km à l'heure. Donc, ça n'a rien à voir avec la route du Nord ou avec la route 167 Nord. Donc, oui, une route de gravier offre un accès tout au long de l'année, mais c'est une route qui comporte des exigences minimales, simplement pour assurer les activités appropriées. Maintenant, avant de présenter le plan d'action des promoteurs pour la construction de la route. J'aimerais vous parler de l'entente pour résoudre le conflit forestier Baril-Moses. Les autorités Cree se sont engagées à respecter une autorisation environnementale éventuelle de route d'accès si elle se trouve en dehors de la zone protégée de la rivière Broadbacks. C'est le cas ici. Donc, ça veut dire que le Grand Conseil des Cree ainsi que le gouvernement de la nation Cree seraient prêts à respecter l'autorisation environnementale parce que c'est en dehors de la zone protégée. J'aimerais également souligner qu'il n'y aura pas de pont qui enjambera la rivière Broadback, pas de récolte au nord de cette rivière non plus. Cette image est tirée de l'entente et il y a une photo du tracé dans cette image. Vous voyez ici que la route H traverse la rivière Broadback, mais ça n'est plus le cas. Donc ça veut dire qu'une longue, un long tronçon de cette route a été supprimé et la route I qui se rapprochait beaucoup de la rivière a été écourtée. Donc voici maintenant le tracé actuel dont nous parlons. Il n'y a plus de pont qui enjambe la rivière Broadback et il n'y a pas d'activité forestière au nord de cette rivière. Parlons maintenant du tracé.
Il y a eu différents critères de conception du point de vue technique, environnemental et social. Par exemple, la route optimise l'accès aux forêts. Il y a un nombre minimal de traversées de cours d'eau et on répond aux demandes des maîtres de trapage. Un exemple, il y a seulement 1% des sites d'intérêt pour les Cree qui sont englobés dans cette route. Et c'est important parce que les compagnies forestières ne peuvent pas intervenir du tout sur ces sites. Donc, c'est le meilleur tracé possible à cet égard. Maintenant, nous pouvons jeter un coup d'œil au plan d'action du promoteur, c'est-à-dire comment il entend procéder pour construire la route. Étant donné qu'il n'y a pas du tout de route dans ce secteur à l'heure actuelle, on peut difficilement avoir accès au territoire, donc les promoteurs sont assez restreints pour ce qui est des relevés. Par conséquent, les relevés seront réalisés au fur et à mesure de la construction, comme on le fait pour les autres chemins forestiers de classe 3. Les études seront réalisées avant les travaux de construction, 2 ou 3 kilomètres à l'avance, c'est-à-dire avant le déboisement de l'emprise. Et comme je l'ai dit, c'est la méthode standard qu'on utilise pour la construction d'une route de classe 3. Et il y a une procédure de 3 pages de longueur qui est suivie au pas à pas. Et les promoteurs fournissent cette procédure au maître de trapage pour qu'il soit entièrement consulter et au courant de la façon de procéder. Il y a un autre document important, le document officiel, qui est le tableau de gestion des déviations. Et cela permet aux promoteurs de déplacer la route au besoin, d'apporter des petites modifications à son tracé. Et la route peut donc être déplacée de quelques mètres si jamais il y a un obstacle qui se présente ou il y a lieu de le faire. Maintenant, pour ce qui est du sable, du gravier requis pour la construction de la route, il y a un certain nombre de bancs d'emprunt qui sont déjà ouverts le long de la route de 21 km qui existe déjà. Ce que l'on voit en les points jaunes, Donc, il y a 14 bords d'emprunt le long de cette route. Donc, ce l'on prévoit, c'est d'utiliser ces bancs pour élargir la route parce qu'elle n'est pas suffisamment large. Elle doit être élargie quelque peu pour assurer un transport sûr. Donc, ce que l'on prévoit, c'est utiliser le plus possible ces bancs d'emprunt afin d'éviter le transport de matériaux de construction. Pour ce qui est des nouvelles routes, il y a quelques bancs d'emprunt qui ont déjà été identifiés, ce qu'on voit en rose, en fait, les points roses. Et l'intention est de déterminer quels bancs d'emprunt seront ouverts au fur et à mesure de la construction, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et cette carte est intéressante parce qu'on voit quel est le lien entre ces bancs d'emprunt et certains aspects réglementaires, comme l'habitat de la faune ici, une réserve de hérons, et s'il y a des refuges biologiques, il y a les cabines, les plans d'eau. Et on sait qu'on ne peut pas ouvrir un banc d'emprunt trop près d'un tel élément qui doit être protégé. Donc, en fait, il y a seulement deux bancs d'emprunt qui ne peuvent pas être ouverts parce qu'ils sont trop proches d'un plan d'eau. Donc, il faudra les mettre de côté, mais la plupart pourront être utilisés. Maintenant, pour ce qui est des traversées de cours d'eau, il y a eu des études de d'écoulement d'eau de débit pour les 7 principaux cours d'eau, les étoiles jaunes, et pour s'assurer d'installer les bons ponceaux. Et pour ce qui est des 9 autres cours d'eau, les plus petits, les plus petits, on a déjà pu déterminer que l'on va installer le ponceau standard de 600 mm. Pour ce qui est des habitats de poissons, le promoteur promet d'utiliser des mesures d'atténuation en cas d'habitat de poissons. Par exemple, on pourrait installer un ponceau avec des chicanes pour permettre de gérer la migration des poissons. Et pour ce qui est des frayères, des aires de frayères, il n'y a pas eu encore de relevé sur le terrain, donc on ne sait pas exactement où elles se trouvent, mais on pourrait, comme je l'expliquais plus tôt, déplacer le tracé de la route pour éviter ces aires ou ces frayères. Et pour montrer que ces traversées sont planifiées avec soin, on voit ici que la route H traverse la rivière Salamandre. Donc, on a déjà prévu installer un petit pont à une voie pour traverser à cet endroit la rivière Salamandre. Ici, c'est un dessin typique où on voit les spécifications d'un tel pont qui est assez petit, en fait. Maintenant, pour ce qui est des éléments sensibles comme les espèces menacées ou vulnérables, et encore une fois, on prévoit utiliser le tableau de gestion des déviations, prévoir au besoin une petite déviation de la route, et on pourrait adapter aussi les périodes de travaux de construction aux périodes de nidification. Et le promoteur doit toujours remplir un formulaire, le remettre au ministère si jamais il remarque la présence de telles espèces. Et on prévoit aussi former les opérateurs des machines utilisées pour la construction. Pour ce qui est des sites archéologiques, le promoteur propose de rencontrer les maîtres de trappage et leur demander, les consulter, voir s'il y a des possibilités de sites archéologiques. Et on pourrait, à ce moment-là, marquer tout site archéologique et il n'y aura aucune excavation avant que tous les éléments découverts n'aient été analysés. Encore une fois, on utilisera le tableau de gestion des déviations pour déterminer où se trouvent ces sites archéologiques et les éviter. Voilà pour ce qui est du plan d'action qui sera mis en œuvre par le promoteur, comme on peut le voir, on a bien réfléchi à tous les aspects que présente la construction d'une telle route forestière. Maintenant, dernier sujet, le caribou forestier. Et cela touche des aspects différents comme la localisation annuelle. Donc en noir, on voit ce sont des points télémétriques, ce sont des colliers GPS qui ont été que portent des caribous. Et en vert, ce sont les zones d'hivernage et les carrés, ce sont les réseaux de pistes de caribous. Donc on voit exactement où se trouve le caribou dans la région. Et la plupart des points télémétriques se trouvent à l'extérieur du secteur prévu pour la route. Il n'y a presque pas d'indice de présence de caribou dans ce secteur. Nous savons qu'il faut faire attention quand on interprète cette carte parce qu'on a pu installer seulement 20 colliers GPS, mais cela semble, ce sont d'assez bonnes preuves que le caribou se trouve à l'extérieur du site du secteur prévu. Cette carte est la même que la carte précédente, mais on voit la localisation du caribou en fonction des aires protégées dans la région. Donc, les lignes quadrillées, ce sont les aires protégées et les lignes hachurées ici, ce sont des aires où on utilise l'approche de précaution mise en œuvre par le ministère. En fait, il s'agit d'un moratoire sur tout développement industriel. Il ne peut pas y avoir d'activité forestière de construction dans ces zones. Et ce que l'on constate, c'est que le caribou se retrouve surtout dans des habitats protégés de toute activité forestière ou construction de routes. Ici, sur cette carte, on voit la localisation saisonnière du caribou à titre des formations, en fait. Donc, il y a quatre couleurs où on représente c'est la présence des caribous selon les saisons. Ici, c'est la probabilité d'occurrence. Ce sont des cartes qui ont été préparées par le MFFP parce qu'il n'était pas autorisé à nous fournir toutes les données nécessaires pour réaliser ces cartes. Donc, la probabilité d'occurrence, ça veut dire la probabilité de voir un caribou selon son habitat et la distance à laquelle il se trouve d'une route, puisqu'il préfère des habitats où il n'y a pas de perturbation. Et la probabilité d'occurrence est plus grande pour ce qui est des forêts anciennes où il n'y a pas de route. Et c'est le cas dans le secteur protégé. Nous savons que c'est une forêt ancienne, donc la probabilité est élevée, ce que l'on voit en foncé sur la carte. Par comparaison, là où ce sont des couleurs claires, où il y a des activités forestières, des routes, eh bien, la probabilité est très faible. Cette carte est identique à la précédente, mais c'est une échelle plus grande qui permet de placer les choses en perspective. Donc, on vient de voir quel est le secteur, que le secteur prévu. Le secteur protégé, là, c'est là où la probabilité d'occurrence est la plus forte. Mais ailleurs, dans la région, il y a une probabilité aussi forte comme ici, c'est au nord de la rivière Broadback, ici et ici. Et non seulement ces aires sont protégées parce qu'il y a des lignes hachurées, mais c'est vraiment où se trouve le caribou. Il se trouve ici, là, au nord de la rivière Broadback, dans des aires protégées où la probabilité d'occurrence est très élevée. Et c'est pour cela que le promoteur dit que s'il y a un secteur où la probabilité est la plus faible par rapport à tous les autres endroits, eh bien, c'est cet endroit-ci, justement, où l'on prévoit de construire une route. Et pour bien montré l'attention portée par les promoteurs, ils ont l'intention de prendre des mesures d'atténuation pour justement réduire cette probabilité d'occurrence. Donc, il pourrait s'agir de fermer les routes, les chemins d'hiver à la périphérie des nouvelles routes pour permettre une reprise de la végétation. On pourrait fermer les routes de gravier secondaires avec l'accord des parties prenantes parce que, évidemment, il faut obtenir l'accord de tous, l'assentiment de tous avant de fermer des routes secondaires. Et une autre mesure pourrait être d'adopter les coupes en mosaïque parce que il est bien connu que ces coupes sont un type d'intervention qui ne sont pas bien adaptées à la présence du caribou. Donc, il faudrait les agglomérer. Notre aspect, c'est l'analyse du taux de perturbation de l'habitat du caribou. Donc, ici, c'est ici que l'on a calculé le taux. Et en jaune, ce sont les habitats non perturbés. Les zones en gris, comme celle-ci, ce sont des zones où il y a des perturbations temporaires, comme les routes d'hiver, des brûlis ou des aires de récolte. Et les zones en vert, ici et ici, eh bien, ce sont des zones où il y a des perturbations permanentes, comme des routes permanentes ou des lignes de transmission d'électricité. Et pour cette aire d'étude, le taux total de perturbation est de 42 %. Et si l'on compare cela à la probabilité de persistance du caribou, cela veut dire que la pérennité du caribou est jugée incertaine. Et il ne faut pas oublier qu'on utilise la méthode du forestier en chef. C'est assez strict. Il faut donner un statut permanent à la perturbation, alors que donc des perturbations temporaires peuvent entraîner une régénération, mais seulement après 40 ou 50 ans. Donc, c'est très différent de la méthode utilisée par Environnement Canada, qui est fondée sur l'interprétation des perturbations qui peuvent être vues à partir d'images de satellites. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Ici, il peut y avoir régénération bien avant 50 ans. Donc, ce qu'il faut en retirer, c'est que ce taux de perturbation totale est peut-être surestimé, en fait, ce qui apparaît à l'écran. Il faut savoir aussi que les évaluations les plus récentes d'Environnement Canada pour ce qui est de la population du caribou au Québec, donc Environnement Canada estimait qu'elle était pouvait s'autosuffire. C'est donc important. Et Environnement Canada utilise d'autres facteurs comme le nombre total d'individus dans les troupeaux, donc chez le caribou. Donc, cela peut, encore une fois, va encore dans le sens d'une surestimation du taux de perturbation totale que nous avons calculé. Ici, c'est la même carte, mais il y a d'autres facteurs. Dans le secteur prévu pour la route, il y a plus de perturbations qui sont visibles parce que, lors du calcul de ce taux, nous avons inclus les perturbations créées par les nouvelles routes et toutes les zones de récolte du plan de gestion actuel. Donc, le taux total était de 45,9, mais encore une fois, on estime qu'il est surestimé parce qu'en fait, ce n'est qu'une fraction. Il y a donc une surestimation. Et pour récapituler. Donc, pour terminer, voici une carte synthèse du secteur prévu pour ces deux routes. Il y a la localisation annuelle du caribou forestier par rapport aux aires protégées et au niveau de perturbation. Et on voit que le caribou forestier se trouve surtout dans des habitats qui sont déjà protégés, soit par la rivière Broadback, l'approche de précaution ou la limite nord de la forêt commerciale. Et ces habitats ne seront pas perturbés parce qu'ils ne seront pas inclus dans la zone prévue pour la construction de la route. Et voici la dernière carte. On voit la proposition d'aire protégée par la nation Cree par rapport aux zones qui sont protégées actuellement et la localisation du caribou. Donc, en vert, c'est la proposition de Waswanipi. En gris, la proposition de Nemaska. Ligne assurée représente les aires protégées actuelles. Et les points noirs représentent l'endroit où se trouve le caribou. Donc, les propositions Cree sont déjà incluses, puisque ce que l'on propose vient se superposer, ce qui est déjà proposé par les Cree. Et ce que l'on voit aussi, c'est que de toute façon, le secteur où doit se trouver la route n'a pas à être protégé. Il n'y a qu'une petite partie de la route qui en fait partie, mais la plus grande partie de la route se retrouve à l'extérieur. Et pour conclure, les promoteurs souhaitent rappeler que cette route que l'on prévoit construire est une route de classe 3 dont l'empreinte est moindre. Il n'y aura pas de pont qui traverse la rivière Broadback ni de récolte au nord de la rivière. Le plan d'action prévoit aussi des adaptations à toutes les conditions sur le terrain. On prévoit aussi des mesures d'atténuation. La plupart des maîtres de trapage sont en faveur de la construction de ces routes. Et le promoteur estime qu'il est important de tenir compte du caribou forestier, mais il faut mentionner qu'il y a bien d'autres habitats. Il y a les aires protégées, la rivière Broadback, les aires touchées par l'approche de précaution, et il n'y a aucune activité forestière dans ces zones. Voilà pourquoi on estime que le caribou forestier est tout à fait protégé. Et les promoteurs souhaitent aussi souligner qu'il y a des répercussions importantes à ce projet pour les scieries qui s'approvisionnent à partir de la région. On aura accès à 100 000 hectares de terres productives, 127 000 mètres cubes par année qui peuvent être de volume résineux, et cela représenterait la perte de 382 emplois, perte de 5 686 000 si l'autorisation n'était pas donnée. Je vous remercie de votre attention. Et nous sommes maintenant tout à fait disposés à répondre à vos questions.